Salut les 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
Milliards de voisins avec Emmanuel Bastide. Pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, nous entrons dans l'histoire des Chibani et plus particulièrement des femmes de Chibani que l'on appelle les Chibanias. Les Chibani, ce sont ces travailleurs oubliés de la France dans la tourmente des vagues migratoires actuelles surtout. Ils sont venus du Maghreb comme ouvriers dans les années 70 ou parfois même avant, en tout cas pour nourrir la croissance économique des 30 glorieuses. Ils sont aujourd'hui au moins 200 000, on parle aussi de 300 000, 400 000, à passer leurs vieux jours en France, dans la précarité. Beaucoup choisissent alors, quand ils le peuvent, de faire venir leurs femmes, rester au pays, des épouses âgées, elles aussi, qui souvent ne parlent pas le français, et qui viennent pour s'occuper d'un mari qu'elles connaissent finalement très peu, car le couple ne se reconstituait que durant les congés d'été. Alors, comment ces femmes vivent-elles cet ultime devoir conjugal? Comment s'adapter tardivement à un pays qui n'est pas le leur? Dans quelques instants, on écoutera le reportage de Charlie Dupiau à Lyon et à Paris. Et nous sommes également en compagnie de Rachid Oujdi, réalisateur qui travaille sur la question des Chibani. Bonjour Rachid Oujdi.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Nous avons adopté comme générique d'émission deux artistes que vous avez mis à l'honneur dans votre documentaire qui s'appelle Perdu entre deux rives, les Chibani oubliés. Qui sont ces voix?
Alors ce sont les voix de Moussa Hakim, les frères Amokrane, qui font partie du groupe Zebda entre autres et qui ont participé à d'autres projets musicaux, dont ce disque qui est un peu particulier, qui est en fait AOC, donc c'est apéritif d'origine contrôlée. Et en fait, ce disque, ce sont des reprises de chansons en fait de l'immigration algérienne des années 30 aux années 70. Et donc, je les ai sollicités pour que ces musiques agrémentent ce film documentaire, Perdu entre deux rives, les Chibani oubliés. Et je leur ai même demandé d'enregistrer un morceau spécialement pour le film.
Voilà. Ils chantent en arabe?
Alors, en arabe, en kabyle, en français. Voilà. Et donc, cette chanson, c'est « Dites à la prunelle de mes yeux qui restait là-bas combien il est difficile de vivre loin d'elle ». Voilà.
Et quant à vous les voisins, si le sujet vous intéresse, bien sûr vous pouvez poser toutes vos questions sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Il y a de la curiosité sur Facebook, Rachid Oujdi, pour le sujet. Alain à Yaoundé au Cameroun nous dit, s'il vous plaît, faites-nous un peu l'historique de cette ethnie. C'est pas tout à fait une ethnie, les Chibani. Mais on aime vos questions.
Moi, j'adore. Alors, Chibani, en fait, ça vient de l'arabe dialectal. Ça veut dire l'ancien, le vieux, le grisonnant, le sage, celui que, normalement, en fait, on doit en fait écouter. Voilà, parce que l'ancien a des choses à nous apprendre. Et puis, il se trouve qu'en fait, aujourd'hui, ça désigne une catégorie donc, de travailleurs que vous avez évoqués, donc qui sont venus pour beaucoup pendant les 30 Glorieuses. Certains sont aussi arrivés avant. Donc Chibani, en fait, c'est au masculin. Chibania, c'est au féminin singulier. Et Chibaniette, c'est au féminin pluriel. Voilà.
Une question de Souni Nokour, qui est à N'Djamena au Tchad. Les Chibani ont-ils des pensions de retraite? Sont-ils considérés comme maghrébins? Est-il facile d'amener leurs femmes avec eux? Les épouses ont-elles pu suivre des cours de français intensifs? Sont-elles venues avec les enfants? Voilà, beaucoup de questions. Victor aussi, qui est à Moundou, également au Tchad. Ces femmes ont-elles pu intégrer la société française? Si oui, comment arrivent-elles à parler la langue? En tout cas, on adore votre inlassable curiosité, les voisins. Vous êtes formidables. Et bien sûr, on va répondre à toutes ces questions. questions avec vous, Rachid Oujdi, et puis aussi le reportage de Charlie Dupio.
7 milliards de voisins.
Et aujourd'hui, on dit quoi ?
J'ai mis le nom 7 milliards, parce que nous sommes 7 milliards d'habitants sur la Terre, et voisins, parce que nous sommes tous des voisins.
Et vous, qu'est-ce que vous avez à nous dire ?
On vous attend. Appelez vite.
Rachid Oujdi, alors qui sont les Chibani ?
Alors les Chibani, en fait, aujourd'hui dans le milieu associatif et dans le social en France, désignent cette catégorie de population. En fait, ces vieux travailleurs, principalement maghrébins, mais il y en a aussi qui sont de l'Afrique subsaharienne, qui sont donc effectivement venus pendant les Trente Glorieuses ou après les indépendances de leur pays. Et ils sont venus pour reconstruire en fait la France, quand la France avait besoin de main d'œuvre. Donc ils ont vécu soit dans les cabanons de chantier, soit dans ce qu'on appelle des logements diffus, soit dans des foyers, puisqu'il y a eu la construction de foyers pour travailleurs étrangers. Et puis, en fait, initialement, ces messieurs travailleurs devenus vieux ne comptaient pas rester, en fait, jusqu'à la fin de leur jour.
Ils le disent beaucoup, d'ailleurs, dans votre documentaire.
Oui,
on était venus provisoirement. Voilà, et puis le provisoire, dans des logements provisoires, devient éternel.
Exactement. Et puis qu'à un moment, ce retour fantasmé au pays, notamment pour beaucoup, c'était à la retraite, je retournerai définitivement. Bah, ce retour est devenu impossible. Et dans le film, justement, ce qui est expliqué, c'est qu'il y a la rupture de l'exil, mais ils ont aussi, malgré eux, inscrit des choses ici. Mmh. Et donc, retourner définitivement, ça devient compliqué pour eux, parce que, en fait, chez eux, ce pays natal, ils ne se sentent plus chez eux. D'ailleurs, dans le film, il y en a un qui l'explique très bien, c'est que chez moi, je ne me sens pas chez moi, je me sens chez moi ici. Et ce ici, c'est où ils ont vécu, finalement, beaucoup plus longtemps que là-bas. Certains sont partis, ils avaient une vingtaine d'années, ils ont aujourd'hui entre 70 et 80, voire plus. Et donc, ils ont vécu plus ici, même si c'est de façon décousue, que là-bas.
Il y a beaucoup d'Algériens hein, parmi ces Chibani.
Oui, parce qu'en fait, dans une des questions, il était est-ce qu'on les considère comme des Maghrébins ? Moi, ça me fait sourire.
C'est pas une nationalité,
voilà, c'est une région d'Afrique.
Bon, en gros, Algérie, Maroc, Tunisie, mais beaucoup d'Algériens.
Parce qu'en fait, le Maroc et la Tunisie étaient sous protectorat et que l'Algérie, comme des pays d'Afrique subsaharienne, était en fait un pays, on va dire, colonisé. Les autres étaient sous protectorat, donc, et en fait, les Algériens étaient soumis au code de l'indigénat, comme en Afrique subsaharienne, comme dans d'autres régions du monde à l'époque de l'Empire, en fait, de l'Empire français, qui était quand même assez important.
Ce qui veut dire que certains arrivent avec une carte d'identité française ?
Ceux qui sont arrivés avant l'indépendance de l'Algérie, donc 1962, oui, ils sont arrivés avec, même dans le film, il y en a un qui le dit, qu'il est arrivé avec une carte d'identité française jaune, il dit, où c'était marqué dessus français musulman. Voilà. C'était pour spécifier l'appartenance. Et parce qu'en fait, quand le code de l'indigénat a été aboli à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il n'a pas vraiment été. Enfin, il a été aboli partout, sauf en Algérie. Quoi.
Rester en France, alors vous le disiez, ils ne repartent pas, contrairement à ce qu'ils ont toujours fantasmé, repartir à la retraite au bled, au pays. D'abord, pour des raisons culturelles, ils ne se sentent plus ni de là-bas, ni d'ici. Enfin, c'est compliqué. Ouais. Mais il y a aussi tout de même les démêlés avec l'administration française, parce que ils touchent une retraite, ils ont travaillé plusieurs dizaines d'années. D'ailleurs, que touchent-ils comme pension de retraite ? C'est une des questions d'ailleurs de nos auditeurs.
Alors, ce qu'ils touchent, bah, c'est ils sont la variable d'ajustement, j'allais dire, de l'économie française. C'est-à-dire que ce sont les premiers visés dès qu'il y a du chômage. Ils ont beaucoup travaillé dans le bâtiment, la construction, dans les mines, dans l'automobile. Variable d'ajustement, donc dès qu'il faut licencier, c'est eux qu'on licencie d'abord. Il y a beaucoup qui ont travaillé dans des petites entreprises. Il y en a qui ont travaillé dans des grands groupes, mais aussi dans des petites entreprises. Et puis, ces petites entreprises ont fait faillite, ils n'étaient pas déclarés. Donc, au moment de faire le bilan de carrière, il y a beaucoup de trous en fait dans leur parcours professionnel, même si eux en fait ont l'impression d'avoir travaillé constamment. Ils n'ont pas été déclarés tout le temps, donc ils touchent pour la plupart une petite retraite.
Vous avez beaucoup filmé ces moments de démêlée entre eux et l'assistante sociale qui les aide. Essayer de démêler la pelote de leur relation avec l'administration française, alors qu'ils maîtrisent finalement assez mal la langue française et encore moins les rouages de l'administration française.
Ça c'est clair, oui. Parce qu'en fait, en étant cantonnés alors soit dans ces logements diffus ou dans ces foyers, ils sont restés qu'entre eux. Et de toute façon, même les foyers au début quand ils ont été construits en France, France, ils ont été construits en dehors des villes. Et moi, j'ai lu des documents de la Sonacotra, donc devenue aujourd'hui Adoma, donc c'est aujourd'hui un bailleur social, qui disait qu'il fallait en fait construire ces foyers en dehors des villes pour pas que ces populations indigènes se mélangent avec les populations autochtones. Voilà, ça veut tout dire.
Sans parler de leur santé, ce sont des travailleurs abîmés par un travail dur que les Français refusaient de faire souvent.
Alors soit parce que les Français refusaient de faire, soit en fait, je parlais de variables d'ajustement, mais ils ont été aussi, pendant les grèves en fait, on allait les chercher. Pendant mai 68, on a beaucoup été chercher à l'étranger ces travailleurs qu'on appelait
notamment
les jaunes.
En Kabylie, hein.
Notamment en Kabylie. Voilà, la Kabylie a toujours été une région... par rapport à la Kabylie, j'ai une petite histoire à raconter, c'est qu'au début du XXe siècle, il y avait une usine de sucre à Marseille, cette usine existe toujours, qui s'appelle Saint-Louis, et en fait, majoritairement travaillé dans cette usine des travailleurs italiens. Et donc les travailleurs italiens se sont mis à faire grève pour dire ben voilà, nous on veut plus être considérés comme du sous-personnel, on veut être payé comme les Français. Et le patron a dit, ah ben ok, très bien, faites grève. Et il a dit, on va aller chercher de la main-d'œuvre ailleurs. Et donc il a été chercher de la main-d'œuvre en Kabylie, à Tizi Ouzou. Et en 1920, sur le registre de cette usine, sur les 600 salariés de Saint-Louis, il y avait 480 Kabyles.
C'est incroyable comme l'histoire se répète quand les usines chinoises ferment et se réinstallent en Éthiopie, parce que la main d'œuvre est moins chère.
Hein.
On n'a pas beaucoup appris. Pourquoi vous vous êtes intéressé au Chibani, Rachid Oujdi?
Parce qu'en fait, il y avait des choses que j'entendais autour de moi que je trouvais un petit peu désagréables. Parce qu'en même temps, j'étais persuadé que tout le monde connaissait l'histoire de ces hommes. Et j'ai réalisé qu'en fait, non. Et aussi parce qu'en fait, il y a un oncle dans ma famille qui avait un petit peu ce profil-là. Et à savoir qu'il était arrivé dans les années 50 en France, très parisien, très coquet. C'est lui qui m'a fait découvrir Paris. Il avait toujours des gadgets, il s'habillait chez des tailleurs.
Il était célibataire,
pas d'enfants. Donc en fait, les neveux devenaient ses enfants de substitution. Et puis, en vieillissant, avant d'arriver à la retraite, il disait qu'il allait faire construire une maison là-bas. Et je me disais, c'est bizarre, il n'a jamais parlé de... Il n'y retournait jamais. Hein. Et donc, il a commencé à faire construire une maison là-bas. Et,
donc en Algérie.
En Algérie, voilà. Et quand il est retourné pour passer l'été, il est revenu plus vite que prévu. Il n'a pas supporté. Et ça m'a interpellé à ce moment-là, ce côté, cette ambivalence, quoi.
Alors, on a des hommes donc, qui retrouvent leur famille pendant des années, uniquement durant les congés d'été. Très souvent, évidemment, des enfants naissent. Et puis, il y a une paternité en pointillé.
Quand ils étaient petits, nous, on était là, on travaillait là. Ils nous voyaient une fois par an. Ils ont grandi avec leur mère. Ils n'avaient pas l'habitude de nous voir tout le temps. Alors quand il s'est grandi, c'est pareil, et ça leur fait, ils vont dire, comment mon père était là-bas, il l'a laissé ici. D'abord, moi, mes enfants, plus ou moins, ils me l'ont dit. Oh, il m'a dit, d'abord, toi, tu n'étais pas avec nous. Un type qui travaille pendant toute sa vie pour ses enfants, pour sa famille, au dernier moment, il se trouve seul. Ça fait très mal, ça.
Un extrait de votre documentaire « Perdu entre deux rives, les Chibani oubliés », Rachid Oujdi. Comment a pu se faire le regroupement familial tardif pour ces Chibani qui décident, pour certains d'entre eux, de faire venir leur épouse, une Chibania?
Le regroupement familial, de façon généralisée en France, c'est sous Giscard d'Estaing au début de son mandat dans les années 70. Mais il y avait quelque chose de spécifique concernant en fait, les travailleurs algériens, puisque dès décembre 1968, ce qu'on a appelé les accords de 60, il y avait la possibilité pour les travailleurs algériens de faire venir leur famille. Donc le regroupement familial, c'est sous certaines conditions, à savoir avoir un emploi plutôt stable et un logement qui ne soit pas précaire pour pouvoir accueillir la famille. Ça, c'est pour ceux qui finalement travaillaient dans des petites entreprises. Mais il y a eu des gros groupes qui avaient des accords spécifiques et qui permettaient de faire venir la famille. Ça, c'est pour une partie. Pour
ça, c'est pour un regroupement assez rapide, finalement,
assez
après
rapide,
l'arrivée des hommes. Hein.
Exactement. Ils arrivent et puis très rapidement, il y a possibilité de faire le regroupement familial. Pour d'autres, ça a été plus compliqué parce que, alors il y a les femmes qui ne voulaient pas venir, il y a les hommes en fait qui étaient ici, qui travaillaient, mais qui ne pensaient pas rester. Donc pour eux, c'était inutile de faire venir la famille.
Donc les années passées.
Voilà. Et arrivé à un certain âge, ben, c'est un peu compliqué de faire venir la famille. Moi, je vais raconter une petite anecdote d'un des Chibani du film. Il est marié depuis les années 60, il est arrivé en France en 1962. Et sa femme n'était jamais venue en France. Elle est venue il y a 2 ans, pour la première fois, donc ils sont mariés depuis plus de 50 ans. Et elle est venue à une projection du film, justement, donc c'était assez amusant. Et donc je dis à ce Shibani, mais tu dois être content, ta femme, elle est venue, enfin. Et il me dit, j'espère qu'elle va pas se plaire. Hein. Je dis, pourquoi tu dis ça? Parce que sinon, elle va vouloir rester, moi je veux pas qu'elle reste. Et en fait, il a cette habitude...
Mais en même temps, c'est lui qui l'a fait venir.
Oui, mais...
c'est alors, toute l'ambivalence.
C'est ça qui est complètement fou, quoi.
Alors, des épouses qui nous montrent en tout cas un autre visage de l'exil, c'est justement l'objet du reportage de Charlie Dupio. C'est difficile de rencontrer ces femmes sans leur mari. Cadra, avec foulard blanc, son regard qui met au défi, puis des bras ballants, résignés, respire la nostalgie du pays. Elle nous accueille dans son petit studio au mur impersonnel, dans un quartier populaire du centre de Lyon. C'est son mari qui ouvre la porte. Il reste assis à côté d'elle. Il voudrait répondre à sa place.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour madame, ici on est donc chez vous avec votre mari dans une grande pièce à vivre qui est à la fois chambre et cuisine. Mais ça reste un appartement assez petit. Ça fait combien de temps que vous habitez ici, en France ?
Ça fait 3 ans que je suis là. Avant, je vivais en Algérie, près de Sétif, avec mes enfants, mes petits-enfants. Mes enfants ont grandi, ils sont devenus indépendants, et j'ai voulu rejoindre mon mari en France. C'était logique que je vienne retrouver mon mari en France.
Vous ne parlez pas français ?
Non, pas du tout.
Qu'est-ce que vous faites ? Tous les jours ici en France.
Je sors avec mon mari, jamais sans lui. On va faire les courses ensemble. Mais ma vie en Algérie était beaucoup mieux que celle que je mène maintenant en France. J'ai vraiment la nostalgie du pays.
Pourquoi ?
Parce qu'il y a son enfant.
Et vous lui demandez à elle pourquoi ?
En Algérie, il y avait tout, on ne manquait de rien. Avec mon mari, on a fait construire 2 grandes maisons, très grandes, dont nous sommes propriétaires. Il y en avait une où mes enfants habitaient et une autre où je vivais seule. Tout allait bien là-bas. J'avais une qualité de vie extraordinaire. Et puis je faisais tout toute seule, j'étais autonome. J'allais faire mes courses, je sortais sans problème. En France, c'est complètement différent parce que je sors peu et je ne sors pas toute seule. Je ne vais jamais faire les courses sans être accompagnée par mon mari. En Algérie, j'ai des frères, des sœurs, des oncles, des tantes. Toute ma famille est là-bas. Et puis il y a mes enfants. Je pense sans arrêt à eux. J'ai 6 enfants, 3 filles et 3 garçons. L'aîné a 35 ans. Le plus jeune de mes enfants a 29 ans.
Comment vous voyez l'avenir ?
Qu'est-ce que vous voulez que je voie ici ? Ici, on parle aux murs. On ne voit que les murs. Il n'y a rien à voir. En Algérie, il suffit de sortir sur le balcon et d'admirer la vue. Alors que là, que l'on sorte ou que l'on ne sorte pas, il n'y a qu'une chose à admirer, notre boîte, cette boîte qu'on appelle maison. Bon, quand je sors dehors, ça va, je me change les idées. Mais dès que je rentre ici, dans cet appartement, quand je vois ces 4 murs, cette boîte, je ne vais pas bien, je suis triste. Je veux rentrer en Algérie.
Mais quand ?
Seul le bon Dieu et l'avenir nous le diront.
Et votre mari aussi, un peu, non ?
Lui, s'il veut repartir, il repartira. Mais moi, mon souhait, c'est vraiment de rentrer chez moi.
Voilà, un déracinement, Rachid Oujdi, qui est d'autant plus violent qu'il est très tardif, bien sûr, pour
exactement,
ces femmes.
Exactement, comme on l'entendait, elle disait que ça fait 3 ans seulement qu'elle est là. Là-bas, il y a 2 maisons, la famille, elle était entourée. Je pense que, le reportage ne le dit pas, mais elle a dû venir rejoindre son mari tardivement pour des questions de santé. Et elle découvre en fait l'univers dans lequel vit le mari depuis plusieurs décennies, ce que la famille ignorait en fait. Hein. Puisqu'en fait, en travaillant ici, ces hommes se sont, on va dire, sacrifiés, on va dire, des deux côtés, pour pouvoir faire construire la maison là-bas.
Ils sont restés très discrets sur leurs difficultés.
Exactement.
Et leur vulnérabilité en France.
Hein. Et c'est alors double déchirement aussi pour cette dame qui vient le rejoindre tardivement et qui elle vient pour l'accompagner pour qu'il finisse ses vieux jours, quoi, parce qu'en fait il ne peut pas rentrer pour différentes raisons qui ne sont pas expliquées là.
7 milliards de voisins, qui sont les femmes de Shibani, les Shibania. Elles ont rejoint leurs travailleurs de mari venus du Maghreb comme ouvriers dans les années 70 au moment des 30 Glorieuses pour accompagner accompagner pour fournir de la main-d'œuvre à la croissance économique. Elles sont arrivées, elles, beaucoup plus tardivement, déracinées, un peu contraintes pour plein de raisons et surtout très dépendantes une fois arrivées en France, souvent à l'étroit dans leur logement. Difficile de chiffrer le nombre de femmes qui débarquent en France pour rejoindre leurs époux chibani. Le mari de Kadra est accompagné par l'association Olivier Dessages à Lyon, qui œuvre pour les chibani, qui leur propose des sorties culturelles, des cours de français, des thés, des parties de cartes, un peu de réconfort au milieu de longues plages de solitude. Mais le café de l'association, évidemment, est surtout fréquenté par des hommes. Leurs femmes, quand elles sont venues du pays, restent beaucoup à la maison. À 460 km de là, à Paris, dans un autre quartier populaire, le Café Social de Belleville remplit un peu la même mission, accueillir les aînés parisiens de plus de 60 ans, en situation de précarité, notamment donc des migrants, comme cette femme parfaitement francophone, qui est venue se renseigner pour un séjour organisé par l'association en Sicile. Et elle a cuisiné pour tout le monde de très très bons biscuits à la farine de pois chiche. Reportage de Charlie Dupio.
Je m'appelle Baya, j'ai 73 ans, je les ai faits le 24 du mois d'août. Je suis algérienne, algéroise même, de souche kabyle. Mon mari et moi, on s'est fréquentés, on était voisins de à peu près 3 km à peu près. Donc c'est un gars du quartier. Donc j'avais 28 ans quand je me suis mariée. Et deux ans après, on a eu ma fille, il travaillait, hein. En tant que dieseliste, il était mécanicien que dans les moteurs diesel. Il avait un patron, voilà. Et depuis, son patron, ensuite, il avait eu l'occasion d'acheter un local à Paris. Et comme c'était le meilleur élément parmi les employés, il lui a demandé s'il voulait bien monter travailler en France. Et il a dit d'accord, mais j'ai ma femme et il faudrait qu'elle monte avec moi. Il a dit écoute, tu montes, tu vois, parce que c'est pas évident de trouver tout de suite. Toi, tu pourras vivre à l'hôtel, mais c'est pas évident de tout de suite trouver un appartement. Donc il est monté et moi je travaillais en Algérie. J'étais secrétaire bilingue dans une société américaine qui s'appelle la General Electric, ça je veux vraiment le dire. J'avais la voiture de fonction, j'étais vraiment très bien.
Et quel était votre poste exactement ?
Secrétaire bilingue. Il ne me manquait pas, c'est bizarre, il ne me manquait pas, mon mari. Mais je montais une fois par an, même deux fois dans l'année. Et chemin faisant, mon père un jour m'a attrapé, il m'a dit, tu sais ma fille, tu vas chez toi toute seule, ton appartement, tu couches des fois chez nous. Il m'a dit, mais c'est pas une vie ça, tu es mariée, ta place elle est auprès de ton mari. Une fois mariée, pour le bon ou pour le mauvais, on est avec le mari. Ça m'a fait mal au cœur que mon père me dise ça, mais après j'ai bien réfléchi. J'ai dit, ben oui, il m'a dit comment, il y a des gens qui ne sont pas instruits, qui partent. Et toi, que tu as tes diplômes et que tu es instruite, tu ne montes pas rejoindre ton mari. Parce que pendant ces quatre années, je vivais sans lui là-bas. Alors, je suis montée avec ma fille et on a passé presque deux mois à l'hôtel. Alors après de là, on a commencé à chercher, on a trouvé un studio.
Et donc à ce moment-là, quel âge vous aviez ?
38 ans. Mais pour moi, c'était un déracinement terrible. Tous les jours, je pleurais. Il n'y avait personne de la famille de mon mari et personne de ma famille en France. Il n'y avait que lui et moi et notre fille. Le temps est passé, notre fille a grandi, tout ça. Il y a eu une séparation entre mon mari et moi. Je m'étais aperçue sans le vouloir qu'il me trompait. Et je me suis mise à travailler après, puisque j'ai gardé ma fille avec moi. Et j'ai travaillé dans un cabinet d'expertise comptable.
Vous avez été un peu contrainte de vous exiler malgré vous.
Ah oui. Jusqu'à présent, hein. Ah oui, je me sens vraiment exilée. Je ne me suis pas encore mélangée. Je ne me sens pas. Pourtant, je suis française et tout. Vous savez, chez nous, on n'a presque pas de clé pour fermer les portes.
Et c'est pour ça que vous vous sentez exilée ? Parce qu'il vous manque ça ?
Oui, et c'est pour cette raison que je suis dans l'association. C'est pour avoir un peu d'amis. C'est vrai.
Au Café Social à Paris, où on a un grand nombre de personnes dans votre situation.
On a des contacts. Tout ça, c'est par l'ennui aussi d'être à la maison, puisque je ne connais personne. Moi, je ne suis pas montée de mon gré. Hein. On a tout là-bas. Hein. Pas oublier, on a le soleil, la mer, la montagne, sans trop se déplacer. C'est vrai. Et si je n'avais pas eu ma fille, je serais redescendue. Je ne serais pas restée. À quoi ça sert de rester ? Pour les murs ? Non.
Rachid Oujdi, vous êtes également avec nous pour nous accompagner dans ces portraits de femmes Chibani. Vous avez signé un documentaire Perdu entre deux rives, les Chibani oubliées. Vous avez consacré votre travail aux hommes. Nous, là, on entend les femmes Baya, dont on vient d'entendre le témoignage. Alors, elle refuse qu'on l'appelle Chibania. Elle dit ça fait trop vieille, trop gaga. Voilà, elle a 73 ans et sa fille, aujourd'hui mariée, est l'unique lien qui la rattache encore à la France. Elle qui n'a finalement jamais rêvé de ce pays. Mais certaines de ces femmes de Chibani n'ont pas d'enfants. C'est le cas de Reira Bouralem, âgée de 50 ans. Elle vit à Lyon depuis près de 11 ans. Son mari était venu lui demander sa main en Algérie alors qu'elle était presque une vieille fille de plus de 30 ans. Après le mariage, mon mari m'a fait venir ici, en France, à Lyon. Il s'est occupé de m'obtenir des papiers. Lui travaillait alors dans le bâtiment, il construisait des grilles. Nous n'avons pas réussi à avoir d'enfants. Quand je suis arrivée ici, au début, je me suis dit « Mais pourquoi ? Pourquoi ai-je accepté de venir ? Pourquoi faire ?» Je ne comprenais rien, c'était très dur. Lui partait travailler, moi je restais seule à la maison. Et avec le temps, passé 4-5 mois, j'ai commencé à m'y faire, à m'habituer à cette nouvelle vie ici. Ça allait un peu mieux. Mais voilà, mon mari est décédé il y a un an et demi. Et depuis, je suis seule. Heureusement, un voisin vient me rendre visite avec sa femme. Ils m'aident, ils me font sortir. Je vis comme ça depuis un an et demi. Je reste en France car je n'ai pas le choix.
Et pourquoi vous ne pourriez pas rentrer en Algérie ?
Parce que pour avoir le droit de toucher la pension de retraite de mon mari, je ne peux pas rester trop longtemps en Algérie, pas plus de 6 mois. C'est la règle. Et j'ai besoin de cet argent pour payer mon loyer, pour passer des appels, pour tout.
Vous avez de la famille encore en Algérie ?
Là-bas, j'ai encore mon père, mes frères, mes sœurs. Ma mère est décédée, mais à part elle, tout le monde est là. Il y a aussi le fils de mon mari, qu'il avait eu avec sa première femme. Moi, je n'ai pas d'enfant. Et si j'allais là-bas, personne ne pourrait me donner de l'argent pour que je puisse vivre. Donc je reste ici. Même si je rentre en Algérie 2 fois par an pour des séjours courts. Et puis, je suis malade. J'ai eu un cancer du sein. On m'a opéré il y a 3 ans. J'ai souvent des rendez-vous médicaux en France. Pour cette raison aussi, je ne peux pas rentrer au pays.
Combien vous touchez par mois ?
Je ne sais pas du tout. Je crois que la retraite de mon mari s'élève à 500 euros par mois. Mais je n'en suis pas sûre. C'est mon voisin qui gère ça. C'est lui qui s'occupe de tous mes papiers administratifs. Il sait combien je perçois. Moi, non. Mais je peux faire les courses toute seule, même si j'ai du mal à me familiariser avec l'argent. Alors je tends tous les billets que j'ai à la caissière. Elle prend l'argent et me rend la monnaie.
Il faut faire confiance quand même aux gens chez qui vous faites des courses.
Quand on me demande 2, 3 ou 5 euros, j'y arrive. Mais les grandes sommes, je ne peux pas. Je ne sais pas quel billet donner. Il faut que je demande de l'aide. Ici, je suis seule, tout le temps. Alors je pense toute la journée, je me morfonds. J'ai des pensées négatives. Heureusement que mon voisin vient frapper à ma porte avec sa femme. Et alors parfois, je sors de l'immeuble avec eux.
Vous avez un voisin qui est algérien, comme vous ?
Oui, et le médecin que je consulte est algérien aussi. Je peux parler arabe avec lui. Je comprends ce qu'il me prescrit comme médicament. Mon pharmacien parle arabe aussi. Ça non plus, ce n'est pas un souci. Mais pour me rendre à l'hôpital, avant, mon mari m'emmenait. Maintenant qu'il est décédé, c'est mon voisin qui m'emmène. C'est lui qui fait tout. Mais bon, un jour, il va rentrer en Algérie avec sa femme et je serai seule.
Pourquoi est-ce que vous n'avez pas appris le français quand vous êtes arrivée ici ?
C'était mon mari qui décidait tout. Il m'interdisait de sortir seule, même pour aller à des cours de français. Je restais à la maison pour cuisiner pendant que lui travaillait. Pour sortir de l'appartement, il fallait que j'attende son retour. Je ne comprenais pas pourquoi je ne pouvais pas sortir seule. Il me disait « c'est comme ça ». Je le regrette maintenant, vraiment. Parce que j'aurais préféré parler français. Comme ça, j'aurais pu m'occuper de mes papiers, de tout, toute seule. C'est vraiment dommage.
Vous avez l'air émue. Presque les larmes aux yeux.
Oui.
Oui, ça ne va pas, c'est vrai, je ne suis pas bien. Mais bon, ce qui est fait est fait. C'est trop tard, je ne peux pas regretter d'être venue.
Ces femmes sont encore plus seules, évidemment, quand le mari n'est plus là. Raïra ne peut pas percevoir, elle l'a dit, la retraite de son mari si elle quitte la France. C'est le cas aussi pour l'allocation de solidarité aux personnes âgées, qui est un minimum vieillesse qu'un Chibani ne peut percevoir que s'il reste au moins 6 mois en France, même si la loi pourrait changer, Rachid Oujdi. Quand vous expliquiez en début d'émission que ces Chibani, ces hommes, ne rentrent pas au pays parce qu'ils ne se sentent plus du pays et qu'ils se sentent bien souvent beaucoup plus français, il y a aussi le démêlé avec l'administration française. C'est-à-dire que s'ils rentrent, de toute façon, ils vivent de quoi? Alors, expliquez-nous.
Alors, en fait, comme leurs retraites sont faibles, il y a des aides et des prestations sociales dont ils peuvent bénéficier, mais ces aides et ces prestations ne sont pas exportables.
C'est ça. Donc, la retraite est exportable plusieurs mois de l'année, mais pas l'aide sociale.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont assignés à résidence, même certains qui voudraient rentrer définitivement. Ils sont assignés à résidence au moins 6 mois et un jour sur le territoire français. Donc ils continuent à faire la navette pour ceux qui ont des maigres retraites. Et puis je voudrais revenir en fait, sur ces deux témoignages de femmes très touchants. Et ce que je trouve très beau, c'est que voilà, ce sont deux registres complètement différents. D'un côté, une femme urbaine, lettrée, intelligente, qui a une façon d'analyser les choses et qui s'exprime très bien en français. Et une autre femme qui est venue tardivement. Son mari est décédé et elle ne touche que la pension de reversion. Donc elle est condamnée à son tour à rester ici parce que comme elle n'a jamais travaillé, quelque part, j'aimerais dire, heureusement qu'elle a cette pension de reversion parce que sinon, elle a le droit à rien, quoi.
On va entendre le dernier témoignage de Chibania, Chérifa, qui a 64 ans. Elle a grandi à Tizi Ouzou, au cœur de la Kabylie, donc toujours en Algérie, est née d'une fratrie de 9 enfants. Elle a pu étudier jusqu'au lycée technique pour obtenir un CAP d'aide comptable, tout ça en français. Et aujourd'hui, elle vit dans le 20e arrondissement à Paris, pas très loin du Café Social, cette association où elle a ses habitudes et où Charlie Dupio l'a rencontrée.
Mon mari, vous allez rire, c'est mon cousin Germain. Je ne l'ai pas rencontré, on jouait ensemble, mais c'est mes parents qui ont décidé le mariage. J'avais étudié en Algérie, j'avais trouvé un poste de secrétaire d'administration. Et puis un jour, mon mari vient en vacances voir sa famille et il demande ma main à mes parents et ils étaient d'accord, quoi. J'avais pas mon mot à dire, hein. C'est pas l'amour, quoi. Il avait 25 ans et moi 18 ans. De toute façon, moi, ma mère, elle m'a dit, on vous marie, mais on ne veut pas de divorce. Bon ou mauvais, vous restez avec le mari. Il était mécanicien. Il m'a ramenée en France avec lui. Je suis arrivée en septembre 1974. Et le 1er novembre 1974, j'ai commencé à travailler. Parce que mon mari m'a dit qu'il faut que je travaille. Je ne suis pas venue pour me rouler les pouces. Ah, il m'a procuré une loge, hein. C'était une loge de gardienne, mais enfin une loge où il n'y a rien, quoi. D'une pièce, 20 mètres carrés, avec juste un petit coin où il y a le lavabo pour cuisiner, faire manger, se laver, hein. Il n'y avait pas d'eau chaude, pas de chauffage, rien du tout. Je suis restée 13 ans dans cette pièce. J'ai eu 3 enfants, 3 garçons. On dormait tous dans la même pièce, c'était un peu trop, quoi. Ils grandissaient. On était 5 dans une pièce, quoi. Et vous savez, mon mari m'a ramenée, mais sans m'apprendre quoi que ce soit. Par exemple, pour le métro, pour aller faire les courses, pour aller là ou là ou là. Heureusement que je savais lire et tout. Ah, j'ai dit là, il m'a peut-être ramenée de force, mais moi, je ne vais pas me laisser faire.
Et comment vous avez fait pour vous débrouiller?
Mais peut-être que le fait d'avoir pris la loge... Ça a fait que j'ai été vers les autres. De toute façon, j'étais obligée de rencontrer les locataires. Il y a certaines femmes qui disent qu'ils sont là depuis 35 ans, 40 ans et qui n'ont jamais appris ni à écrire ni à parler français. Ça me révolte parce que je dis que c'est pas normal.
Certaines femmes racontent que c'est le mari aussi qui ne voulait pas qu'elles sortent seules.
Oui, mais il ne fallait pas se laisser faire. Moi, personnellement, je me suis révoltée. Je n'ai pas besoin qu'il me donne son accord. Hein. Il fallait aller faire des courses. Ce n'est pas parce que le mari a dit qu'il ne faut pas bouger. Oui, ils ont peur du mari parce qu'il les menace et tout ça, c'est sûr. C'est sûr, je sais, je connais des hommes qui tapaient leur femme parce que une fois elle est sortie ou elle s'est habillée assez coquette pour accompagner les enfants à l'école, par exemple. Ils sont pas contents, ça c'est sûr. Ah, il y a eu des heurts, hein, ça je peux vous garantir, mais je me suis pas laissée faire. Et puis en 88, on a eu un appartement parce que les enfants, ils étaient tellement malades tout le temps que l'école a réagi. Ils ont été manifestés à la mairie et les institutrices et la directrice pour nous obtenir un logement. Et on l'a obtenu, hein, avec 3 chambres, une belle terrasse.
Vous avez pu quitter ce logement, vous avez pu arrêter d'être gardienne. Et ensuite, qu'êtes-vous devenue professionnellement?
Mon mari, vous savez, il m'a dit, tu vas pas aller travailler, tu restes à la maison, c'est tout. Mais moi, j'ai pas baissé les bras, hein. J'ai gardé des enfants, j'ai fait du babysitting, j'ai fait du ménage chez les gens.
Pourquoi c'était aussi important pour vous de travailler?
Non, mais c'est ma liberté, quoi. Et puis, j'ai pas besoin d'aller pleurer pour qu'il me donne un centime.
Aujourd'hui, vous touchez une pension de retraite?
Ah oui, 925 euros.
925 euros net par mois?
Oui, net. C'est pas grand-chose, mais j'arrive à vivre. On a un grand loyer quand même, on paye presque 800 euros par mois. La retraite à mon mari, elle passe dedans, quoi. Et moi, je nourris les médecins, acheter des affaires. J'ai une fille de 21 ans qui est encore chez moi.
Et vous habitez encore avec votre mari?
J'habite encore avec mon mari pour les enfants, parce que je ne veux pas les perturber. Ils sont grands, vieux, mais de toute façon, pourquoi faire? Je sors maintenant, je voyage. Lui, il est libre et moi, je suis libre.
Quel est votre lien avec la France?
La France m'a adopté, moi je suis chez moi.
Intes medias, intes medias, intes medias, herke hazna fallas. Intes medias, intes medias, intes medias, fallas itsru kullas. يبعد فلي يا ربي هزقل البحور روحي الوالي كبير بابور يبعد فلي يا ربي هزقل البحور ربي العالي حرم ثلس عزيز فلي يا ربي ما يرى قملس ربي العالي حرم ثلس عزيز فلي يا ربي ما يرى.
D'où je dis votre documentaire perdu entre deux rives, les Chibani oubliés. On entend d'ailleurs les artistes que vous avez choisis pour la bande originale de votre film Mousse et Hakim, qu'on a repris pour illustrer également nos reportages sur les femmes de Chibani, super. Les Chibania. Alors quand on les met en parallèle, c'est vivant, vous avez recueilli les témoignages des hommes, voilà. Nous les femmes.
En même temps, je trouve ça très, très fort et très pertinent et très complémentaire. J'ai beaucoup aimé le témoignage de la dernière femme qui dit qu'elle a été adoptée par la France, elle se sent bien ici. Je pense qu'effectivement, dans tout ce qui a été dit par ces femmes, il y a plein de choses très, très fortes, notamment qu'effectivement, ce qu'on n'arrive pas à expliquer très, très souvent, c'est que la plupart de ces hommes, donc comme ces femmes, viennent de zones rurales, qui n'ont pas été scolarisés, n'ont pas été éduqués, je mets les guillemets, et donc n'ont pas eu l'accès à un certain type de culture. Donc,
d'où la difficulté d'apprendre le français, d'ailleurs,
difficulté d'apprendre
quand on est âgé et qu'on n'a pas été alphabétisé dans sa propre langue.
Et qu'on a, quelque part, alors je mets aussi les guillemets, subi le poids familial. C'est-à-dire que, comme elle explique cette femme, ils ne se sont pas choisis, quoi. Hein, les Chibani qui sont venus travailler en France, moi, de tous ceux que j'ai rencontrés pour le film, il n'y en a aucun qui a dit « j'ai choisi ma femme hein. ». C'est la famille qui choisissait. Et même certains ont accepté pour avoir la paix familiale, etc., se sont mariés avec une femme choisie par la famille. Donc,
et à cela s'est ajoutée la difficulté de l'écartèlement.
Exactement.
D'une vie de couple disloquée par la Méditerranée. Donc encore plus difficile à construire.
Complètement. Ah oui, encore plus difficile. Et chaque fois qu'ils rentraient, donc tous les ans, tous les deux ans ou tous les trois ans, en fonction de l'argent qu'ils mettaient de côté, qu'ils envoyaient au pays pour faire construire à la fois la maison et pour ramener tout ce qu'il y avait besoin là-bas, ils essayaient de reprendre leur place d'homme dans la famille. Et on leur, même les enfants, mais t'es qui en fait, qu'est-ce que tu fais là, retourne là-bas. Et en fait, ils ont été des pères mandats, quoi. Et les femmes sur place là-bas, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent s'imaginer ici en France, elles ne sont pas seules, justement. C'est ce qu'elles expliquent. Elles sont entourées, et la famille, alors parfois ça peut être un peu lourd et pesant, mais en tout cas, elles ne sont jamais seules, elles, là-bas. Alors que ces hommes ici, dont certains, effectivement, ont eu double, voire triple vie. Hein, voilà, certains avaient la femme officielle là-bas, et puis ici, certains ont connu, on va dire, l'amour tarifé, et d'autres ont eu des aventures, voire des enfants ici sur le territoire. Voilà.
Et voire de vraies histoires d'amour aussi.
De vraies histoires d'amour aussi.
Et choisies.
Et choisies, exactement, tout à fait.
Sur un territoire où ils étaient libres.
Libres, tout à fait. D'où ce côté aussi, dès qu'ils ne parlent jamais, j'allais dire, mal de cette France qu'ils ont choisie, parce que malgré tout, ils l'ont choisie.
C'est ça. Les hommes que vous avez rencontrés, quand ils parlent de repartir au pays, ils évoquent l'amour de la France, la liberté. C'est un mot qui revient souvent dans les témoignages que vous avez recueillis, vous, auprès des hommes.
Ah, pour eux, c'est un pays, effectivement, le pays des libertés. C'est pour ça qu'ils sont venus ici.
Alors, en même temps, il y a des témoignages incroyables dans votre documentaire. Il y en a un qui dit qu'il est en bien meilleure santé quand il retourne au pays, en Algérie, qu'il n'a plus de diabète. C'est incroyable. Mais quand vous lui demandez pourquoi il ne reste pas, ah mais non, il préfère rester en France. Ouais. Ce n'est pas qu'une histoire de pension et d'aide sociale.
Je pense qu'en fait, aujourd'hui, arrivé à leur vieux jour, ils ont besoin des deux. Quoi. Il y a ce pays natal où leur nombril a été enterré, et ce pays, en fait, la France, c'est leur pays aujourd'hui.
Il y a un sujet que vous n'abordez pas dans votre film Perdu entre deux rives, les Chibani oubliés, c'est la montée de la radicalisation religieuse. Elle est évoquée et en pointillé, de manière un peu gênée par certains des Chibani. Comment se situent-ils, eux, et vous aussi?
Et moi, en fait, c'est pas évoqué, ou c'est évoqué en pointillé. À un moment, l'un des Chibani évoque la montée du fondamentalisme religieux dans son pays natal. Pourquoi ça n'a pas été évoqué? Parce que ça ne correspond pas à leur génération. Ce fondamentalisme religieux correspond à un monde...
Ils ne s'habillent pas du tout de la même façon, ces Chibani, d'ailleurs. Ils ont un style vestimentaire propre.
Tout à fait. Et pour ceux qui sont pratiquants, que j'ai rencontrés dans le film, ils ne mettent la djellaba que le vendredi pour aller prier à la mosquée. Le reste de la semaine, ils s'habillent, on va dire, en civil. Et d'ailleurs, certains sont même très coquets, etc.
Avec un couvre-chef,
voilà,
souvent.
Un chapeau, etc. Voilà, tout à fait. Ouais. Donc, le fondamentalisme religieux, les interpelle, les interroge aussi, parce qu'ils ne comprennent pas, eux.
Parce que eux ne nourrissent pas de ressentiment particulier à l'égard de la France ?
Non, dans la globalité de tous ceux que j'ai rencontrés, et d'ailleurs souvent, d'ailleurs pendant les projections de débat, c'est ce qui ressort, les gens me disent mais avec tout ce qu'ils ont subi, comment ils peuvent encore aimer la France? Mais alors, moi j'explique à chaque fois qu'ils l'ont quand même choisi, ce pays.
Alors qu'ils ont été floutés par certains employeurs, notamment, qui ne les ont pas déclarés. Ils peuvent avoir du ressentiment, d'ailleurs ponctuel, vis-à-vis de certains employeurs.
Oui, mais en même temps, même avec, en ayant été floués, pour eux, le fait de ce choix de l'exil, malgré tout, ça a été moins pire pour eux ici que s'ils étaient restés. C'est aussi pour ça. Et puis c'est ce pays que eux ont choisi, et en sachant qu'ils resteront en fait des éternels émigrés. Comme se dit dans le film d'ailleurs, immigrés là-bas, immigrés ici, un pied entre les deux.
Pas de ressentiment donc à l'égard de la France, dites-vous, contrairement, j'ai envie d'ajouter, à la jeune génération qui, elle, est née en France, dont une minorité, une minorité bien sûr, mais nourrit clairement un ressentiment, voire une haine de la France.
Haine, je sais pas, je pense que c'est une haine peut-être d'eux-mêmes, quoi. Dans le sens où il y a une différence quand même qui est fondamentale entre ces Chibani, ces exilés venus d'ailleurs, et ces jeunes qui sont nés ici, c'est que justement ils sont nés ici.
Ils sont français,
ils veulent revendiquer à un moment certaines choses en s'inscrivant ici, et on les a signifiés, et on leur a signifié pendant longtemps. Il y a une forme d'ostracisme qui s'est créée, donc ils ont été cherchés ailleurs. Une sorte d'entité qui ne correspond pas d'ailleurs à l'éducation qu'a pu leur apporter leurs parents. Ça ne correspond pas, c'est quelque chose, je ne sais pas, une sorte de monstre hybride. Et là, on leur fait miroiter des choses et donc se crée quelque chose de différent.
Est-ce que aussi c'est parce que ces jeunes français ont grandi avec en miroir une certaine humiliation des parents?
On va dire que
dans l'insertion sociale, professionnelle.
Peut-être que alors leurs parents ont courbé l'échine, et surtout pas de bruit, pas de vague. Leurs grands frères ont peut-être, malgré la scolarité, pour certains d'ailleurs, réussi. Il y a eu encore une forme d'humiliation, et peut-être qu'eux se disent, regardez, qu'on courbe l'échine ou même qu'on soit diplômé, on est un petit peu mis de côté. Donc peut-être, voilà, c'est aller chercher quelque chose ailleurs, quoi.
En tout cas, votre documentaire s'appelle Perdu entre deux rives, les Chibani oubliés. Et puis, il y a aussi un tout dernier documentaire sur les mineurs isolés qui a reçu le prix Amnesty International du meilleur long métrage. Et puis, il y a un très beau recueil de photographies, Chibani, la question, dont vous êtes l'un des auteurs. Merci beaucoup d'être venu.
Merci
chez
pour 7
milliards, Rachid Oujdi.
Merci beaucoup.
À la réalisation de notre émission, Hugo Violas, Cécile Lavolo à la préparation.
Wahed jusqu'à l'état. As-tu eu le choix de ta naissance? C'est là où s'avance. Et pour parler des problèmes de terriens, immigré. Dieu a créé la terre pour les hommes. La volonté était qu'ils apprennent à la partager. De la terre ils pouvaient bénéficier pour cultiver des hommes et des femmes s'ils voulaient procréer. Mais la simplicité s'est très vite envolée et l'industrie est très très vite arrivée. Chasser tous les hommes qui n'accepteraient de s'installer. Et maintenant il faut des papiers pour traverser des contrées. Je m'appelle Mohamed, Mohamed Jo, Mohamed Jo. Tout le monde ils me connaissent, Mohamed Jo, Mohamed Jo. J'aurais pu m'appeler Joseph, Mohamed Jo, Mohamed Jo. Mais je m'appelle Mohamed, Mohamed, Mohamed. Puis les hommes se sont imaginés des codes pour s'identifier, identifier tous ceux qui n'accepteraient de participer à leur loi votée par une assemblée bien connotée. Et maintenant il faut des papiers pour traverser des contrées contrôlées. Va chier. Jamais je n'accepterai de servir un état que je n'ai pas demandé, des lois que je ne veux surtout pas partager. La terre des dieux, et quelle qu'il soit, n'appartient à aucun homme. Donc là, il y a mal donné. Alors on se la donne contre ça. Hé, hé, on se la donne mais ne se vend pas. Alors on se la donne contre ça. Hé, hé, on se la donne mais ne se vend pas. Soit blanc, rose ou noir, ne nous intéresse pas. Pauvre ou riche,
ne nous intéresse pas.
D'Amérique ou africain,
ne nous intéresse pas.
Musulman, juif, chrétien, cela ne nous fait rien pour nous. Le combat commence avec toi quand tu voudras. Oh, je m'appelle Mohamed,
Mohamed Jo, Mohamed Jo.
Tout le temps on me renvoie au bled,
Mohamed Jo, Mohamed Jo.
Mais le lendemain tu me retrouves en Suède.
Mohamed Jo,
il n'y a pas de remède.
Mohamed, Mohamed.
En France, toutes ces familles déchirées et ces mères jeter un coup de pied d'un côté à le père. Renvoyés au pays par l'armée, les enfants parqués, brisés. La vie d'une famille comme si tout ceci n'était qu'un jeu de pire. Mais où est passée notre hospitalité? Cette capacité d'accueillir des gens en difficulté. Des réfugiés exilés, venus dans l'espoir de travailler, avoir un métier, bien payé pour envoyer chaque année de l'argent au de blé. Lorsque l'on sait qui ne paye d'un exilé, fait vivre un village entier.
Demain, 7 milliards de voisins, rediffusion de notre émission. Peut-on sous-traiter sa vie grâce aux applications et donc se débarrasser des corvées quotidiennes? On en parlera demain. Merci les voisins de votre fidélité.